Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Esprit Sport. On est tous ravis de vous retrouver après une émission spéciale la semaine dernière. 32e émission, aujourd'hui on ne compte plus les participations tant elles sont nombreuses de l'équipe du jour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jonathan.
Wow. Bonjour Corentin, comment ça va?
Mais ça va très bien, et vous? Très content de revenir après quelques semaines d'absence.
C'est vrai, oui, la semaine dernière c'était l'émission spéciale sur le cinéma. On retrouve Coraline qui peut enfin reparler.
Exactement, j'étais là mais j'étais pas là. J'étais à vos côtés mais pas aux côtés des auditeurs, oui. Tout à fait.
Il y a 15 jours on a eu droit à un bonjour et un au revoir.
Et ça, exactement, c'était à et peu là près tout. Un petit peu mieux.
Un petit peu mieux et ça s'entend. Et on est content de vous retrouver Coraline, bienvenue à la maison.
Merci bien.
Au programme de cette heure, retour évidemment en arrière sur les performances sportives bonnes ou mauvaises de la semaine dernière avec vos tops et vos flops. Nouvel entretien où nous parlerons d'un parcours inspirant, motivant et assez diversifié, vous allez voir. Enfin, vous allez écouter surtout. Nicolas Joussomme, professeur d'EPS, pour qui le sport n'est pas simplement un loisir, c'est toute sa vie, comme il nous le racontera dans quelques minutes. On parlera aussi avec lui de l'absence du karaté au JO, sport qu'il a pratiqué et dont il est devenu la semaine dernière champion de France en semi-contact. C'était à Lyon. Le week-end, pour certains, beaucoup se posent la question, une question en particulier. Après cette mythique épreuve de Paris-Roubaix, qui cette année a vu l'arrivée, a vu plusieurs chutes graves de coureurs, mais aussi après l'installation d'un virage érigé pour réduire la vitesse. Sur ce fameux tracé du Paris-Roubaix, c'était juste avant la trouée d'Arenberg. La question de la semaine, le cyclisme est-il devenu trop dangereux? On tentera d'y répondre avec Corentin et Coraline, et on terminera avec un pronostic et une analyse du match du week-end. Tout de suite, retour aussi de Corinne Saint-Félix pour l'information sportive en région.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
Un week-end sportif marqué par le retour de la paire Antoine Dupont-Romain Ntamack.
Et oui, Jonathan, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont retrouvé leur place à la charnière du Stade Toulousain hier face au Racing 92 en 8e de finale de la Champions Cup. Ntamack a tout juste repris la compétition samedi 30 mars en top 14 avec une entrée en jeu à la 56e minute lors du succès sur Pau, victoire 31-29. Le demi d'ouverture de 24 ans avait auparavant été absent pendant 7 mois et demi, en cause une rupture du ligament croisé du genou gauche qu'il s'est faite lors de la fameuse rencontre contre l'Écosse. Il avait raté le mondial en France suite à cela.
Victoire pour les Rouges et Noirs en top 14 et en Coupe d'Europe.
Le Stade Toulousain a battu 31-7 le Racing 92. Donc hier, le Stade vainqueur du TOS a décidé de jouer contre les Rafales qui se sont engouffrées dans le stade d'Ernest Vallon. Le club se qualifie pour le quart de finale de Champions Cup. La prochaine rencontre du Stade Toulousain dans le top 14 aura lieu le samedi 20 avril à 21h05. Le quart de finale de Champions Cup aura lieu à Toulouse le dimanche 14 avril à 16h contre Exeter Chiefs.
Pas de succès pour Pau en Challenge Cup.
La section a fait trop de cadeaux aux Irlandais du Connacht. Les Palois, alors qu'ils avaient pris l'avantage, se sont finalement écroulés en deuxième mi-temps. Les Irlandais, plus méthodiques, leur ont donné une leçon d'efficacité et de précision.
Pour clore ce chapitre rugby, Toulouse Métropole accorde 20 millions d'euros pour agrandir le stade du club.
Ce projet d'agrandissement souhaité par le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, semble évoluer. Jeudi dernier, la mairie et la métropole de Toulouse ont annoncé un soutien de 20 millions d'euros pour ces travaux. Ce sont les premières collectivités à s'engager sur ce projet en attendant le département et la région. Le projet doit être mené en concertation avec les habitants du quartier déjà impactés par la construction de la troisième ligne de métro. La construction du stade Ernest Vallon remonte à la fin des années 70 et au début des années 80. Propriété de l'association Les Amis du Stade Toulousain, son enceinte peut accueillir actuellement jusqu'à 18 000 fans. D'ici 2027 ou 2028, sa jauge pourrait passer à 23 000 spectateurs.
En foot, les joueurs du Toulouse FC ne sont pas parvenus à s'imposer face au Racing Strasbourg au Stadium à Toulouse ce dimanche.
Les deux équipes se suivent au classement de Ligue 1 et comptaient le même nombre de points, 32 à l'entame du match. Les Toulousains comme les Strasbourgeois ont eu de nombreuses occasions au cours de la première mi-temps sans jamais concrétiser. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul, 0-0, et restent au coude à coude dans le classement. Prochain match des Violets à Rennes, ce sera le samedi 13 avril.
Trois escrimeuses du cercle d'escrime du Grand Cahors au circuit national vétéran épée.
La compétition se déroulait samedi à Aubière avec 100 escrimeuses venues de toute la France. Après la série des poules, Marielle et Noël en catégorie V2 se sont inclinées en 32e de finale et Nathalie en catégorie V1 a frôlé d'un point le 16e de finale. Nathalie et Noël sont d'ores et déjà qualifiées pour participer au championnat de France qui auront lieu à Nantes au mois de juin.
Finissons avec de l'athlétisme. Rodez se part d'or et de bronze lors du championnat de France de trail.
Le club du Piton n'est pas revenu les mains vides de son déplacement à Buis-les-Baronnies à l'occasion du championnat de France de trail, un événement au cours duquel 8 licenciés aveyronnais ont franchi la ligne d'arrivée de l'une des deux épreuves au programme. Les ruthénois ont remporté pas moins de 2 médailles, dont la plus belle dans la catégorie Master 5 par Annie Douziech.
Plusieurs informations qu'on a retrouvées avec Corinne Saint-Félix, dont on parlera dans les notifs un petit peu plus tard, car tout de suite, on retrouve les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et vu comme c'est son retour après beaucoup trop d'absence, Coraline, on vous écoute.
Eh bien, on va commencer par un flop, puisque mon flop portera sur les clubs français en 8e de finale. En Challenge Cup, triste bilan pour les clubs français ce week-end. Sur les 5 clubs, Castres, Clermont, Bayonne, Montpellier et Pau, qui tentaient de continuer l'aventure en vue des quarts de finale, seul Clermont a remporté son duel. Mention spéciale à Montpellier, qui s'est lui-même sabordé en seconde mi-temps avec une indiscipline de haute couture. Un carton rouge et 2 cartons jaunes. Alors qu'il menait 17-7 à la pause, il s'incline 17-40 face au Ulster. Le Ulster qui se déplacera donc à Clermont ce samedi 13 avril pour le quart de finale. Et mon top, eh ben, ça sera pour les clubs français, mais en Champions Cup du coup. à l'image du match du Stade Toulousain contre le Racing, un vent tricolore a déferlé en Champions Cup. 3 clubs sur 5 se sont qualifiés. Seuls Lyon et le Racing ont donc perdu. Bordeaux recevra donc les Harlequins. Du côté du stade d'Ernest Vallon, nous aurons droit donc à un Toulouse-Exeter. Quart de finale un peu plus compliqué pour La Rochelle, puisqu'il se déplacera en terre britannique du côté du Leinster.
La Rochelle qui a réussi à faire un exploit, battre une équipe sud-africaine en Afrique du Sud. C'était jamais arrivé depuis que les Sud-Africains étaient en Champions Cup.
Et ça fait du bien de battre des Sud-Africains.
Voilà, battre les Sud-Africains chez eux d'un point. Voilà.
Pardon, mais ça fait du bien quand même.
C'est ça. Bon, on aurait préféré que ça soit en novembre dernier, mais bon, c'est pas grave. Fin décembre dernier d'ailleurs. Oui, donc c'était la première fois qu'une équipe européenne battait les Sud-Africains chez eux. Donc c'est plutôt une bonne chose.
C'est plutôt une très bonne chose même d'ailleurs.
Bah, c'était mal parti en plus d'ailleurs pour La Rochelle.
Bah, pour le tenant en titre, en effet, c'était très très mal parti. Donc, allez La Rochelle qui.
Oula. Oui. Ouais. Très bien. Non, mais il n'y a pas de souci.
Écoutez, on est un petit peu chauvin.
Un petit peu chauvin, très bien.
Voilà, on supporte les clubs français.
Très bien, merci beaucoup Coraline. Corentin, votre top et votre flop de cette semaine.
Alors, je vais vous proposer de faire un petit tour chez nos voisins allemands pour mon top. Alors, c'est la première fois, il me semble, qu'on va parler du foot, justement, de l'autre côté de notre frontière cette saison. Je préfère parler du ballon rond et je vais parler surtout d'un petit poussé, ça fera plaisir à Erwan qui n'est pas là aujourd'hui. On va parler de la Coupe d'Allemagne qui a eu ce deux petits poussés qui se sont affrontés en demi-finale la semaine dernière. Et on a vu le club du FC Sarrebruck qui finissait un très beau parcours. Malheureusement, ils ont perdu face à Kaiserslautern. Alors, ça va être très compliqué la prononciation hein, pour ce top, je sens. Donc, Kaiserslautern, c'est une équipe qui est en deuxième division et le FC Sarrebruck, c'est une équipe qui est en troisième division. Et cette équipe de 3ème division, elle avait réussi l'exploit de battre 3 équipes de Bundesliga, qui est l'équivalent de notre Ligue 1 chez nous. Il y avait le Bayern Munich, Francfort et le Borussia Mönchengladbach, à mes souhaits. Donc voilà, une très belle performance et j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de ce beau parcours. Kaiserslautern, l'équipe de 2ème division, retrouvera le Bayer Leverkusen, qui est l'une des équipes les plus séduisantes d'Europe en ce moment. Une équipe qui est en route vers un incroyable triplé et puis qui reste aussi sur 41 matchs consécutifs sans défaite. C'est simple, cette équipe n'a pour le moment pas perdu cette saison. Donc voilà, il y a des petits poussées intéressants aussi ailleurs qu'en France ou par exemple aussi qu'en Angleterre où des fois des équipes tirent leur épingle du jeu. Et pour mon flop, je vais rejoindre Coraline, alors pas forcément sur les performances sportives, mais plutôt sur l'intérêt du public sur la petite Coupe d'Europe, donc sur la Challenge Cup. J'ai été très déçu de voir beaucoup de stades, même pas à moitié plein, c'était un quart plein, que ce soit à Montpellier, à Pau ou ailleurs. Et voilà, je ne sais pas si c'est pour des raisons économiques. Est-ce que les places de Coupe d'Europe coûtent plus cher? Est-ce que c'était les horaires qui convenaient pas? En tout cas, je trouve que c'est vraiment, vraiment embarrassant parce qu'en fait, c'est des équipes qui arrivent à faire jauge pleine les jours de top 14. Et là, quand on a des matchs, on va dire, un peu plus exotiques avec des adversaires internationaux, on n'arrive pas à faire le plein. Donc voilà, c'est dommage, mais ça montre aussi qu'on a un championnat qui est très relevé et que finalement, le niveau et les attentes du public se concentrent plutôt sur le territoire local, sur le championnat national. Et puis, si je peux rajouter une petite pique, la musique sur les tambours
Oh, quelle horreur.
dans les mêlées, les
Quelle
touffes,
horreur.
on le dit une
Ah
semaine sur deux, on le dit, mais on n'en peut plus, c'est plus possible.
Que ce soit top 14 ou Coupe d'Europe.
Même en Pro
Même
D2.
combat.
Ça
Ouais,
arrive certaines fois en Pro D2. On sent. Mais à quelle horreur. Je suis allé
c'est
voir
une
Montauban Dax
catastrophe.
d'ailleurs et ils l'ont fait partiellement aussi.
Faut arrêter, hein.
Là, faut arrêter là,
Oui,
mais.
non, c'est laissez-nous les bandas, c'est autre chanson des supporters plutôt que nous être du
Exactement.
Jodassin,
Mais d'ailleurs,
pitié quoi.
pour en revenir à la fréquentation des supporters, je vais parler d'un club que je connais,
Pau?
Pau, à tout hasard, exactement. Donc
Étonnant.
Pau, qui d'ailleurs, les Irlandais étaient présents en nombre, une cinquantaine, soixantaine d'Irlandais étaient présents. Et alors, moi, je l'expliquerai pourquoi une faible fréquentation des supporters. C'est parce que bah, déjà, les abonnements ne comprennent pas du coup les huitièmes de finale, ils comprennent les phases de poule, les matchs de phase de poule à la maison, mais pas les phases finales. Et je pense que c'est pour ça, puisque c'est un investissement en plus d'un
Ah
abonnement
oui.
qui coûte déjà cher, avec des places qui coûtent aussi cher. Donc je pense que
C'est cher
ça.
quoi.
Non, mais je pense que ça en a ralenti certains, quoi.
Très bien. C'est raison valable peut-être. Sûrement d'ailleurs.
Ça m'a ralenti en tout cas.
Ah, du coup vous êtes. Oui, bah, voilà, c'est une des raisons qui fait que du coup vous n'êtes pas allé.
Exactement, tout à fait.
Corentin, est-ce que vous allez suivre ou est-ce que vous avez suivi un des matchs des phases finales?
Oui, j'en ai regardé quelques-uns
En
quand même,
stade,
j'ai
je veux dire,
regardé
dans le
celui du.
stade, pas à la télé.
Ah non, depuis le stade, non, c'était un peu compliqué, moi, avec le déplacement, tout ça, non, c'était compliqué. Et puis là, en les ayant à la télé, j'ai quand même pu profiter pour regarder, mais c'est vrai qu'on n'a pas profité de l'ambiance, quoi. Déjà que les conditions météo n'ont pas forcément favorisé le jeu sur tous les terrains,
Oui, le coup
donc c'est
d'envoi
vrai qu'on avait.
de Toulouse Racing. Ah, mais
Double
même
coup
tous
d'envoi,
les
ouais.
coups de
C'était.
pied de
On a
Toulouse
eu. On a
Racing.
eu.
Ah
Ouais, voilà,
oui.
c'était. D'ailleurs, ce qui était un petit peu prévisible, puisque la veille, à Ernest Vallon aussi, le samedi à 18h, il y a eu la reprise du thé à domicile. Et du Théo 13, donc c'était à peu près pareil. Tous les coups de pied, d'un côté c'était le meilleur coup de pied du monde qui faisait des 50 mètres faciles, et de l'autre côté des coups de pied qui faisaient pas 2 mètres parce qu'avec le vent
Exactement, ça
c'était
revenait.
retour à la maison. Et donc voilà, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais vous allez voir que d'Ernest Ballon, on va aussi en parler dans les notifications dans quelques instants. Petite mention, vous avez terminé Corentin?
Oui, j'ai
Oui,
terminé,
voilà,
merci.
vous nous avez fait voyager. Moi aussi, je vais vous faire voyager, mais en mal cette fois-ci. À 108 jours des JO à Paris, il y a une nouvelle étude qui a été menée par une ONG et qui a révélé que la Seine n'est toujours pas adaptée à la baignade. Il y a eu plusieurs prélèvements qui ont été réalisés et qui ont indiqué la présence de plusieurs bactéries à des niveaux dépassant les normes fixées par la Fédération internationale de natation. Parmi les 14 prélèvements réalisés, 13 révèlent la présence de bactéries. C'est assez inquiétant.
Ça
Voilà.
sent, ouais, ça sent le roussi un petit peu cette histoire quand même. Hein.
À 104 jours des JO.
Ça
104.
sent le duathlon.
Donc ça sent le duathlon, effectivement. Mais ça sent pas bon pour les épreuves de natation et même nautique, parce qu'on ne sait pas si. Je sais plus où ont lieu les épreuves de canoë et compagnie, mais si ça doit se faire sur la Seine, il y aura toujours des risques de bactéries. Bon, est-ce que le fait qu'ils ne se baignent pas pose problème ou pas? Affaire à suivre.
Sur la scène, sachant qu'il y
Faut
aura
juste
une
que les
cérémonie
bateaux ne
d'ouverture
fondent pas en fait. Et la
juste.
cérémonie d'ouverture, on sait toujours pas si elle va se passer sur la Seine. Ça devrait se passer sur la Seine, mais.
Alors là, ça serait plus pour des raisons de sécurité, à la limite, où ça pourrait peut-être pas se faire. Mais sinon, la
Parce que.
cérémonie d'ouverture, il y aura des bateaux qui polluent. oui. qui pollue la Seine.
Parce que le format d'ouverture des JO et le nombre de spectateurs, le fait que ça soit sur invitation, que ça soit sur place payante pour les enfants de plus de 1 an, c'est compliqué et on expliquera tout ça évidemment à l'approche de ces JO petit à petit et on vous tiendra informé. Merci beaucoup pour tous ces tops et ces flops, on en aura eu encore de beaux cette semaine. Tout de suite...
Petite félicitations pardon, oui. aux 54 175 marathoniens de ce week-end. Quand même, 54 000, c'est beaucoup.
Ben oui. Voilà. Vous y êtes, Corinne, du coup? Vous avez pris un
dossard? Bien sûr, mais bien sûr.
On sait que Corentin court beaucoup. Corentin fait beaucoup. Le 10 km en moins d'une heure.
J'essaie de courir. L'objectif, ça serait en 2025 d'arriver à faire un semi-marathon. Mais voilà, 2025, il faut s'entraîner, il faut le mériter quand même.
Ah, il faut le mériter. Eh bien, on vous mettra un micro et on fera ça ensemble. Enfin, vous ferez ça et puis on vous suivra.
Oui, on vous regardera.
À bicyclette derrière.
À bicyclette, effectivement. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve un entretien assez incroyable.
Esprit Sport, le face-à-face.
Nouvel entretien aujourd'hui et je suis heureux de recevoir Nicolas Joussomme. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour ceux, sûrement ceux qui suivent régulièrement l'émission, ce nom vous parle puisque nous avons reçu votre femme il y a quelques temps dans l'émission. Du coup, on voit que le sport, c'est une affaire de famille.
C'est ça, c'est vraiment une affaire de famille. Effectivement, on s'est rencontrés avec Cécile par le biais du sport, par le biais du karaté notamment. Ça prend une grande place dans nos vies respectives, c'est sûr.
Voilà, c'est quand même assez... Comme quoi, si ça, c'est pas le meilleur message à faire passer, faites du sport. Voilà, c'est vraiment le meilleur message. Ouais. Comment vous en êtes arrivé à mettre... Parce qu'on voit que vous avez fait beaucoup de sport avec des résultats, ça on en parlera plus tard. Comment vous avez mis un pied dans le sport? Comment vous en êtes arrivé à pratiquer du sport en général?
D'une manière générale, bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime depuis tout petit. J'étais un enfant assez remuant et j'ai comme souvenir que souvent les amis de mes parents venaient à la maison en disant « Mais est-ce que c'est pas un peu trop de sport ?» Et ils disaient « Je sais pas, mais en tout cas, c'est juste ce qu'il nous faut, nous, pour être tranquille à la maison. » Donc, c'est vrai que j'en fais depuis tout petit. Je saurais même plus dire à quel âge réellement j'ai commencé, mais... J'ai démarré par le judo à l'époque, de mémoire. Ça devait être effectivement aux alentours de 8 ans, peut-être.
Oui, donc c'est assez tôt, quand même.
Voilà, ouais, c'est assez tôt.
Et du coup, donc, c'était plus pour vous canaliser qu'une passion de vouloir faire du sport.
Alors, moi, j'ai toujours adoré ça, bouger d'une manière générale, hein, quelle que soit l'activité physique. Mais effectivement, mes parents m'y mettaient d'abord parce qu'ils voyaient que j'aimais ça et puis ensuite parce que ça me permettait quand même de dépenser une bonne quantité d'énergie. Voilà.
Et alors, vous l'avez dit, vous avez commencé par donc le judo. Pourquoi directement le judo quand, depuis beaucoup d'années maintenant, généralement, quand on fait le premier sport, ça reste du foot?
Oui, alors bon, j'y suis passé aussi sans beaucoup de réussite, mais non, j'ai commencé par le judo parce que mon père était karatéka et a toujours considéré que le judo était un bon début pour commencer. D'autre part, à l'époque, je vivais donc avec mon beau-père qui était lui-même judoka de très bon niveau, donc ça a été un peu naturel. Voilà, ils étaient d'accord sur ce point de vue, donc on a démarré avec le judo et c'est effectivement une belle activité. Je suis passé aussi par j'ai fait beaucoup d'athlétisme, du foot également, et puis ensuite tout un tas d'activités plutôt acrobatiques comme le roller, le parcours.
Ah oui,
la
donc
gym,
vraiment un petit peu touche à tout.
Oui, c'est vrai que déjà de par mon métier, moi je suis professeur de PS, hein, donc c'est vrai que j'aime d'une manière générale le sport. Et depuis tout petit, j'en ai fait énormément de différents, en club ou non hein, d'ailleurs, hein, mais j'aime toucher à tout. Voilà.
Qu'est-ce qui. Parce qu'on voit, donc on a parlé de votre femme que vous avez rencontrée quand vous faisiez du sport.
Par le biais du karaté, oui.
Votre père qui vous a initié un petit peu au judo, au final, vous ne pouvez pas passer à côté. C'était obligé de mettre les pieds dans le sport.
Oui, c'était compliqué de passer à côté, même si j'ai pas du tout l'impression qu'on m'y est forcé, mais sincèrement, de toute façon, vraiment, voilà, c'est une passion depuis toujours, hein. En rentrant des cours, je sortais systématiquement, et c'était systématiquement pour aller faire du sport, un foot, un rôle du roller, peu importe. C'était pour aller dépenser le reste d'énergie qui me restait. Ouais.
Et donc du coup maintenant vous pratiquez encore, vous n'êtes pas arrêté depuis que vous avez commencé.
Oui, bah c'est ça. C'est ça. J'ai jamais arrêté le sport dans ma vie, hein. Je pratique encore beaucoup. Je m'entraîne encore pas mal pour un quarantenaire. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais fait de pause de sport dans ma vie, si ce n'est contraint par quelques blessures. Mais c'est jamais très très long. Voilà.
Et puis ce qui est assez intéressant, on voit que vous êtes touche à tout. Et en plus d'être touche à tout, vous êtes presque bon partout, puisque vous avez eu déjà plusieurs bons classements en karaté.
Oui.
Vous avez été récemment champion de France de karaté semi-contact. Félicitations.
C'est ça. Merci beaucoup. Merci.
En boxe française, aussi vous avez des résultats. C'est assez incroyable parce que c'est quand même, bon, ça reste des sports de contact, mais ça reste des sports très différents, avec des techniques différentes, avec pas des mentalités, mais avec beaucoup d'aspects différents. Comment vous êtes arrivé à tout maîtriser et à avoir des résultats dans tout ce que vous faites?
Bah écoutez, je pense que
C'est
bon, alors
quasiment
c'est vrai
inné,
que
du coup.
non, c'est pas inné, mais c'est vrai que bon, depuis tout petit, on m'a toujours dit que j'étais plutôt doué voilà, avec mon corps, hein. C'est vrai que sur le plan moteur, je suis plutôt bon. Après, comme je dis souvent, je suis très très bon partout, bon partout, sans exceller nulle part, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, je suis assez polyvalent, et je pense que c'est vrai que c'est un avantage, ce qui me permet comme un caméléon, un peu de passer d'une discipline à l'autre. Alors là, c'est vrai qu'on a cité beaucoup de disciplines de percussion, hein, de sport de combat de percussion, qui effectivement ont des points communs. Pour le grand public, c'est quasiment la même chose, hein, finalement, de la boxe pied-point ou du karaté ou autre. Mais pour les initiés, effectivement, on sait que c'est finalement assez différent, avec beaucoup beaucoup de choses qui peuvent venir finalement handicaper lorsqu'on a du vécu dans certaines disciplines et quand l'on passe sur d'autres disciplines. C'est vrai qu'on a quelques atouts, mais on a aussi quelques handicaps avec des
Oui,
défauts
parce qu'il y a quelques restes
à corriger.
de certains
Ouais,
sports.
tout à
Quand on
fait.
passe de la savate, de la boxe française, donc pied-poing, au judo ou au karaté, c'est
C'est
un petit peu
ça.
plus compliqué. Et comment vous, dans votre préparation, dans votre approche, vous avez réussi à switcher, à changer, à tout oublier presque pour vous lancer dans un autre sport qui reste de contact?
Je pense que c'est l'envie de découvrir de nouvelles choses. C'est comme ça que j'y arrive, c'est-à-dire que je m'entraîne pas mal à chaque fois que j'entame une nouvelle discipline. J'essaye de comprendre, on va dire, les mécanismes de la discipline en question, avec toujours quand même des avantages, hein, acquis dans d'autres pratiques, ça c'est certain. Et puis ben, après, j'essaye de gommer les défauts lorsque je pratique une nouvelle discipline, en m'acharnant davantage à l'entraînement sur ces points-là, on va dire. Mais c'est vrai que bon, j'ai jamais eu trop trop de mal à passer d'une discipline à l'autre. Ça,
Alors,
voilà, ça l'a toujours bien fait.
ça continue de payer encore, puisque vous avez été titré il y a 15 jours, il y a une semaine même.
Oui.
Alors, on le voit, donc là, on parle d'un titre qu'il y a eu la semaine dernière, mais il
Oui.
y a aussi cette histoire, cet esprit de durée dans le temps, puisque c'est pas la première fois que vous gagnez quelque chose. Vous avez
Oui.
aussi déjà fait des podiums il y a plus de 10 ans.
Oh
Comment
oui.
Vous arrivez à perdurer dans le temps. Souvent, on entend dire, quand on fait du sport, et surtout quand on le fait à bon niveau, voire à haut niveau, des fois, les organismes s'usent, et surtout là, dans un sport de contact, des fois, le corps, il dit stop et il n'en peut plus. Comment
C'est
vous,
vrai.
en 10 ans, vous arrivez à donc changer de sport et à vous adapter, ça, vous nous l'avez expliqué, mais comment on arrive à tenir dans le temps? Ça fait plus de 10 ans que vous arrivez, au-delà de
Oh.
faire du sport, à avoir des résultats.
Oui, tout à fait. Alors, ça fait même bien, bien plus que ça, parce que bon, j'ai commencé, on va dire, la pratique compétitive depuis, ben, je vous dirais peut-être depuis que J'ai 10 ou 12 ans, donc ça fait presque 30 ans
Voilà,
que je fais de la compétition.
belle carrière.
Mais c'est vrai que bon, l'organisme s'use, ça c'est évident, surtout quand on en fait. Alors, c'est pas du très haut niveau, mais c'est du haut niveau systématiquement sur le plan national, quelle que soit la discipline. L'organisme s'use, ça c'est une vérité. Il faut d'ailleurs y faire attention parce que bah, on a tendance en tant que sportif à toujours revenir à l'entraînement un petit peu prématurément et on le paye forcément sur les années. Mais plus que l'organisme, moi je crois que c'est plus le mental qui s'use en premier, entre guillemets. Je commence à en ressentir d'ailleurs un petit peu les effets. C'est-à-dire que ben, finalement, quand on a été toujours motivé par la compétition, le fait d'être plus fort d'une journée sur l'autre, ou plus fort que ses adversaires, ou plus fort que l'équipe adverse ou autre, eh bien, au bout d'un moment, on a du mal à préserver ce mental, on va dire, de gagnant, de toujours chercher à vaincre l'autre. Et c'est là-dessus que j'ai tendance à m'essouffler aujourd'hui. Je sens que j'ai un petit peu moins aujourd'hui d'influx, on va dire, et de grinta, comme on pourrait dire aussi, que ça n'était avant. Voilà. Après l'organisme, c'est certain, il s'use à ça. C'est le lot de tous les sportifs.
La discipline, c'est un petit peu le maître mot pour pouvoir réussir à performer au final.
Exactement. C'est vraiment bon parce que la motivation, tout le monde l'a, un jour ou l'autre. Hein. Par contre, la discipline, c'est vraiment être capable de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, parce que clairement, on n'a pas tous les jours envie d'aller s'entraîner, mais de le faire comme si on adorait ça. Et en réalité, hein, bien sûr, j'aime ça. Lorsque j'y suis, j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est parfois difficile le soir de se motiver et de se dire, allez, je vais à l'entraînement parce qu'il le faut, j'ai telle compétition en ligne de mire ou j'ai telle chose en ligne de mire.
Un
C'est ça qu'on
objectif à
appelle la
atteindre.
discipline. Voilà, c'est ça qu'on appelle la discipline plutôt. Voilà, la motivation. Tout le monde peut en avoir à un moment donné. De la discipline, c'est plus compliqué.
Et pour revenir, donc 30 ans de sport à haut niveau, enfin un bon niveau, très honorable même, qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir peut-être faire cette carrière de professionnel? Peut-être faire partie de certaines équipes de France, peut-être
Oh
voilà.
oui.
C'était quoi l'étape qui manquait pour avoir ce niveau-là?
Bah écoutez, je sais pas, je vous avoue d'ailleurs, bah c'est rigolo que vous en parliez parce que je pense que c'est un petit peu peut-être le regret de ma carrière sportive. Je pense que j'aurais aimé effectivement intégrer du très haut niveau une équipe de France, quelle qu'elle soit finalement, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un amoureux du sport et pas forcément d'un sport en particulier. J'aurais aimé découvrir ce que c'était qu'une structure de haut niveau, des entraînements quotidiens ou bijournaliers même. Voyez, qu'est-ce qui m'a manqué? Je pense que j'ai peut-être manqué un petit peu on va dire de.
De chance.
Non, pas forcément de chance. Je pense de. Alors, c'est pas de motivation, mais je pense que j'ai jamais forcément suffisamment cru en moi. Et puis, je me suis jamais réellement, en réalité, donné les moyens, je pense, d'aller chercher ce haut niveau. J'ai toujours été très compétiteur, mais sans. Je pense qu'il m'a manqué un petit peu, oui, de hargne et de niaque. Après, j'étais sur Toulouse, dans les sports de combat. Bon, la France est un très bon pays de sports de combat, mais même si j'avais de belles structures à Toulouse, je ne me suis jamais entraîné comme on doit s'entraîner quand on souhaite atteindre le haut niveau, c'est-à-dire quasiment tous les jours ou autre. J'ai toujours ce petit, on va dire, cette flemmardise qui a pu des fois voilà, me jouer des tours et en me disant bon bah allez ça va, je réussis à performer avec tant d'entraînement dans la semaine, ça suffit, ça va bien pour ce que je vis, ça va. Mais aujourd'hui je le regrette un peu. Je pense qu'effectivement j'aurais pu peut-être atteindre des équipes de France dans quelques disciplines. Voilà. C'est un petit regret. Je pense que je l'attribue davantage à moi qu'à la chance ou qu'à mon encadrement ou autre. Vous voyez?
Et ce que vous avez réussi, en tout cas, c'est, on voit qu'il y a quelque chose qui vous caractérise aussi, c'est de transmettre cette passion que vous avez pour le sport. Vous l'avez dit, vous êtes prof de sport dans un
Oui.
collège, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Collège et lycée,
Collège
oui,
et
à
lycée.
Montauban.
Et
Ouais,
donc,
collège et lycée.
vous transmettez cette passion. On sait, alors pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pratiquez en UNSS le sport à l'école, mais pas simplement en cours? C'est un club de sport dans le collège. Est-ce que vous vous
C'est
impliquez
ça, ouais.
aussi dans ce genre d'événement?
Bien évidemment, oui, bien évidemment. En tant que professeur de PS, on doit faire une association sportive. Elle a évolué au gré des années. Moi, c'est vrai que j'ai commencé dans l'établissement dans lequel je suis là. Ça fait 15 ans à peu près que j'y enseigne. Je suis passé par d'autres établissements avant, mais dans celui-ci, j'ai démarré par le karaté, justement, à l'époque, pour essayer de transmettre un petit peu cette passion que j'avais. Ça a bien fonctionné pendant quelques années. Puis, progressivement, si vous voulez, sur le plan scolaire, le karaté n'est pas très développé. Et
Et on va en
c'est
parler juste
davantage la
avant.
boxe française. Voilà, c'est davantage la boxe française qui est développée. Donc, je suis passé à la boxe française avec pas mal de résultats de mes équipes en boxe française et en kickboxing, notamment ces dernières années,
Donc, en
des
plus de
titres de champion de
savoir
France.
de pratiquer les sports très bien, vous savez aussi très bien les enseigner. Ce qui est des fois pas
J'essaye.
forcément de pair.
Non, ça ne va pas toujours de pair, mais bon, c'est vrai que moi, c'est mon métier. Donc, c'est vrai que voilà, j'enseigne à l'école, j'enseigne pas en dehors, en revanche, sauf exception pour remplacer Cécile, éventuellement au club de karaté ou des amis sur d'autres clubs de boxe. Mais par contre, à l'école, oui, je l'enseigne toute la journée, effectivement. Et j'aime
Pratiquer,
ça.
transmettre, gagner, beaucoup de qualificatifs au final qui vous vont parfaitement, mais on voit, comme vous nous avez dit il y a quelques instants, que eh bien, certains sports qui sont un petit peu, pas sur le déclin, mais en manque de visibilité ou qui
Oui.
manquent un petit peu d'adhérents, le karaté, évidemment, vous avez arrêté pour passer à la boxe française. Vous, ancien karatéka, qu'est-ce que vous pensez du retrait du karaté aux Jeux Olympiques pour laisser place à d'autres sports?
Bah, c'est vraiment effectivement des sous. Alors, je corrige, je suis davantage dans la boxe française aujourd'hui, mais je resterai toujours un karatéka en réalité, et je continue d'ailleurs les compétitions de karaté ponctuellement. Mais je continue ensuite sur le sujet des JO. Je trouve ça effectivement injuste
Surtout que la France
dans
est
le
titrée
sens.
en plus au niveau
Oui,
mondial, européen et
ouais.
olympique en karaté.
Sincèrement, on a toujours, depuis les années 80, été une nation très très forte dans cette discipline. C'est donc injuste. D'ailleurs, si vous interrogez la plupart des personnes autour de vous, la plupart pensent que le karaté est aux Jeux Olympiques depuis toujours, parce que finalement, c'est le sport, l'art martial, le sport de combat. De référence, si on peut dire, hein, dans l'esprit des gens. Bon, le karaté, le judo, ça va ensemble. Ce sont les deux gros arts martiaux. Donc voilà, ça peut surprendre certaines personnes qu'il ne soit en réalité pas au JO. Il y est entré simplement à Tokyo en 2020 pour en ressortir immédiatement. Donc c'est d'autant plus frustrant, hein, cette porte ouverte qui est refermée. Immédiatement
Immédiatement,
après les Jeux de 2020. Franchement, voilà, c'est injuste. C'est vrai que ce sont des décisions politiques, souvent menées par les mannes financières que les autres activités peuvent amener, par la visibilité que les autres activités peuvent amener. C'est vrai que moi, comme je vous l'ai dit, j'adore vraiment toutes les activités physiques. Et là, on parle à la place du karaté. Du skateboard, du surf, de l'escalade, du break, qui sont de très belles activités, mais qui, à mon sens, ne sont pas forcément toutes, en tout cas, aussi légitimes dans un programme, olympique, que le karaté ne pourrait l'être.
Alors du coup, karaté et la boxe française aussi que vous
Oui.
pratiquez. On va peut-être dire les termes pour les chances de médailles. On a déjà 7 Français qualifiés en boxe pour les JO l'été prochain.
Oui.
Est-ce que vous voyez une médaille pour la France pour ces JO?
En boxe anglaise, du coup, là, hein, vous
Oui,
parlez
oui,
bien
oui.
sûr, hein, puisque c'est la boxe anglaise qui est au jeu. Je saurais pas vous dire exactement quels sont les. Est-ce que vous pouvez me citer les. Vous savez, vous connaissez les athlètes qui sont
Oh, il y en
sélectionnés
a
pour les.
beaucoup. Il y a Amina Zadani, Estelle Mosley évidemment, Sofia
Oui.
Noumia, qu'on connaît surtout
Ouais. Alors,
à Toulouse. Déjà, rien que
tout à fait.
Estelle Mosley et Sofia
Bah,
Noumia,
moi, je pense
ça sent
ils
les
ont tous les
médailles.
deux, effectivement. Effectivement, ils ont tous les deux de vraies chances de médaille. Ce sont de très beaux boxeurs. Oui, sincèrement. Et puis Sofia Noumia a fait de très belles performances récemment là, qui sont plutôt de bon augure pour ces jeux,
Il y a Davina
effectivement.
Michel aussi en moins de 75
Oui.
qui s'est qualifiée pour les JO. Donc voilà, peut-être, on espère une médaille, au moins une, ça
Oui,
serait bien.
bah, on y croit. On a la chance en plus de pouvoir aller voir avec Cécile justement quelques finales à Roland-Garros pour ces Jeux Olympiques. Donc, si on pouvait en plus aller voir des finales françaises, ce serait intéressant.
Voilà, et donc le tournoi de
Voilà.
boxe à Paris qui se déroulera du 27 juillet au 10 août. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous partager
Merci beaucoup à vous.
ce parcours de vie et ces exploits dans vos sports. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et vu comme maintenant on est motivé après ce parcours et ces multiples casquettes, ces multiples tatamis qu'a foulé Nicolas, j'ai plus le kimono, voilà, ces multiples kimonos qu'a eu Nicolas Joussomme. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous échauffer, voilà, et de se préparer avec Eyes of the Tiger. On se retrouve juste après. ça a enchaîné uppercut, crochet droit, coup de fouetté, jambe avant, jambe arrière, n'est-ce pas Coraline?
Alors ça a enchaîné plutôt les défis cordes vocales, on va dire.
Là, on a plus eu droit à du Patricia Cass qu'à du Rocky Balboa. Là. C'était assez, assez... On devrait la filmer, cette émission, ça serait incroyable.
Non, pour mon intégrité, non.
C'est vrai que ça serait assez, assez incroyable. Tout de suite, on va débattre. Avec la cloche en plus en rythme, magnifique. Là, on a enchaîné les combats et les combats parce que le cyclisme est aussi un combat. Et le cyclisme est-il devenu trop dangereux ? Deuxième cloche. Alors, pourquoi on aborde ce débat ? Puisqu'il y a quelques temps, il y a eu le Tour du Pays Basque avec... Résultat, 3 blessés, des images affreuses de cyclistes, de sportifs à terre en position latérale de sécurité après des chutes à très grande vitesse. Pour résumer, Vingegaard, fracture clavicule et côte, il a aussi un pneumothorax. Evenepoel, fracture de la clavicule. Roglic, quelques brûlures, mais lui devrait s'en remettre assez rapidement. On voit... Des cyclistes aller de plus en plus vite, tomber de plus en plus, avoir de plus en plus de blessures graves. Julien Alaphilippe a eu aussi ce problème de pneumothorax il y a quelques temps après s'être pris un arbre. Le cycliste est-il donc devenu trop dangereux, Corentin ?
Moi je dirais que oui, et je dirais que c'est aussi en partie à cause de nous, alors quand je dis nous, c'est le public et les suiveurs surtout. Notamment du fait qu'on a toujours envie de plus de spectacles, de plus de vitesse, de plus de sensations, de plus de champions, plus de records battus. On est toujours dans ce côté-là d'en attendre toujours plus. On voit les épreuves sont aussi de plus en plus difficiles, fait notamment par exemple le Tour de France où on a des parcours qui en demandent toujours plus aux coureurs. Et je pense que la situation d'aujourd'hui va nous amener à nous retrouver face à nos contradictions, c'est-à-dire qu'on veut les meilleurs, on veut du spectacle. On veut des coureurs qui prennent des risques, mais on a aussi envie d'avoir des courses qui finissent bien. Le but, c'est pas d'avoir des coureurs dont, en plus, là, vous avez cité des favoris, qui se blessent, qui vont manquer les prochaines courses. Ça va impacter les organisateurs, la diffusion et également derrière le suivi de ces courses par le grand public. Donc je pense que oui, c'est devenu trop dangereux et je pense que nous, le public, on en demande peut-être un peu trop aux coureurs.
Justement, ce fait de repousser toujours les limites et de mettre un petit peu plus, toujours plus de vitesse, de choses impressionnantes, la question se pose de, ben justement, comment faire pour brider ces sportifs quand la vitesse compte autant pour eux et en général pour le vélo.
Mais je pense pas qu'il faille brider les sportifs, en fait.
Mais si, ça va trop vite. La seule solution, c'est peut-être de les brider pour aller moins vite. Et du coup, après, ça n'empêche pas les chutes.
Est-ce mais que dans ça évite les chutes temps, on graves. Pas, par exemple, comme...
Mettre les petits trous
par exemple. non, mais déjà, améliorer leur sécurité sur le vélo. J'entends par là...
Des tenues dorsales, vélos. Un casque...
Exactement. Mieux. Des airbags sur les...
Comme
airbags.
Les motards
ouais, c'est exactement ça que je pensais. Les motards quand ils tombent, certains sont équipés justement de airbags qui se déclenchent dès leur chute.
Le problème de mettre des vestes ou des équipements comme ça, c'est l'aérodynamisme qui est toujours plus, surtout en ce moment, toujours plus poussé. Le poids aussi, ou le vélo, je crois que le vélo, je crois qu'en tout, il doit peser moins de 6 kilos.
Ah oui,
c'est
oui,
du carbone,
c'est
même pas 6 kilos, je pense que tout complet, c'est voilà. Peut-être qu'on pourrait, peut-être qu'il pourrait plutôt réfléchir à un petit peu comme en F1, ce parallèle peut se faire, où la F1 d'avant, c'était vraiment la F1 de roule ou crève, concrètement. Là, peut-être que. Il y a aussi cette idée de un peu modifier les choses, comme a fait la F1 avec le système de halo, ou tout ce qui est tour de cou pour les casques et compagnie. Peut-être que pour les cyclistes, il faudrait voir des casques peut-être plus englobants ou qui prennent plus la tête, le cou, pour éviter déjà de graves commotions et des problèmes, des problèmes au cou. Déjà, ça, ce serait un grand pas, et je pense que ça pourrait apporter aussi... voir le cyclisme comme un laboratoire, comme la F1 d'ailleurs, un laboratoire pour le cyclisme de tous les jours, ou pour ceux,
oui.
qui, voilà, ceux qui font en club et compagnie, pour sécuriser aussi ça. Ça pourrait être un laboratoire pour créer des équipements sécurisés et ça obligerait les équipes à avoir peut-être une section recherche et développement. Voilà.
Bah, en tout cas, c'est vrai que, bah, prenons l'exemple des casques, puisque vous en parliez, les casques, il y a, bah, alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été rendu obligatoire sur le Tour de France, mais c'est relativement assez récent. Au début, les coureurs n'étaient vraiment pas pour. Aujourd'hui,
c'est obligatoire.
C'est impensable. Non, mais même pour eux, c'est impensable de monter sur le vélo et de ne pas mettre le casque. Donc, les changements, ils peuvent être compliqués à admettre de la part des coureurs, mais au fil du temps, ils les acceptent. Et ça devient même d'ailleurs une condition de sécurité. Ils ne monteraient pas sur un vélo sans un casque. Alors effectivement, améliorer les casques, comme vous le disiez, avec des casques un petit peu plus intégral, certes, du coup, qui réduirait l'aérodynamisme, mais qui améliorerait leur sécurité. Comme je le disais auparavant, une sorte d'airbag pour, encore une fois...
Ouais, ça rajoute du poids. C'est ça aussi le souci avec le système de déclenchement de l'airbag.
Ouais, ça rajoute du poids, mais si vous tombez, et malheureusement, on le voit très très bien. Alors, je suis notamment le Tour de France. Après, c'est vrai que je suis d'un œil le reste de la saison. Mais les chutes, malheureusement, elles sont quand même très 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 régulières. Là, sur le Paris-Roubaix, on a eu droit à une épingle à 90 degrés pour que les coureurs arrivent un petit peu moins vite sur une portion de pavé où habituellement ils arrivent. Exactement,
oui.
Ouais, tout à fait. Une chicane à 90 où habituellement les coureurs arrivent à 50-60 km/h et qui, forcément, quand vous arrivez à 50-60 km/h sur des pavés, badaboum à l'arrivée.
Surtout que là, en plus, il a pas plu cette année, ça va.
Alors, il pleuvait pas le jour J, mais il a plu sur les jours précédents.
Mais
donc,
il n'avait pas plu, donc on a vu des Paris-Roubaix où les mecs ils sortaient de la mine, on dirait presque.
Exactement, tout à fait. Donc forcément, ça peut être compliqué. Un Paris-Roubaix sous la flotte, ça peut être très, 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 très compliqué. Donc on est en train d'essayer de faire des brides de sécurité là, des chicanes à 90, mais
est-ce que modifier aussi peut-être les étapes trop rapides. On sait que les vélos maintenant ils montent à largement plus de 90 km/h. Comment justement on essaye de diminuer cette vitesse? En plus, on parle d'évolution sur les casques. À noter aussi que les freins sont beaucoup plus efficaces maintenant. Donc on peut se permettre de freiner beaucoup, beaucoup plus tard. Et c'est aussi prendre un risque parce que tout le monde fait la même chose. Corentin, est-ce que vous modifiez certains tracés? Ça peut peut-être être une solution comme il a été le cas à Paris-Roubaix. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, cette chicane. Mais est-ce qu'au final, c'est pas un mal pour un bien pour les coureurs?
Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faille adapter un petit peu pas mal d'éléments. Là, on a passé un petit moment à parler du côté matériel. Maintenant, il faut rappeler aussi que les chutes, c'est un contexte général de la course, c'est-à-dire qu'il y a les frottements entre les joueurs. Un peloton, ça reste très resserré. Donc, il y a aussi ce contexte-là. Peut-être que pour éviter justement qu'il y ait des grosses chicanes comme ça qui puissent être vraiment problématiques, après c'est un test, on ne peut pas en vouloir aux organisateurs d'avoir essayé d'anticiper et d'avoir voulu préserver les coureurs d'une situation à risque sur ce gros secteur pavé qui était en présence. Mais on pourrait imaginer un kilomètre avant le secteur pavé, une zone de transition avec une vitesse dégressive, par exemple, les coureurs qui à 500 mètres doivent tomber la vitesse à 50 et rentrer dans le secteur pavé à une certaine vitesse pour justement éviter qu'ils arrivent lancés tous comme des frelons à 80 et qu'au premier qui pète un pneu, qui guidonne ou quoi, on se retrouve avec 50 mecs qui sont à terre et après il faut les techniciens, les machins, les médecins, ça devient vite compliqué. Donc il y a la partie matérielle, mais il y a la partie contexte aussi. L'UCI quand même essaye d'apporter des règles petit à petit pour justement modifier, permettre que les situations soient un peu moins à risque. Je pense notamment aux descentes. Il y a quelques années de ça, on voyait des mecs descendre assis sur leur cadre pour gagner en aérodynamisme. Et quand vous parliez de vitesse qui allait jusqu'à 80, voilà, là les mecs c'était ils pédalaient bien plus, ils se mettaient vraiment en position comme les motards, quoi. Ouais.
Ça a été interdit. Donc, maintenant pour faire une descente, il faut avoir les fesses, tout simplement sur la selle, exactement.
C'est ça, et avoir les mains aussi qui sont liées avec le guidon, de ne pas essayer d'avoir une posture voilà, qui est là pour favoriser l'aérodynamisme, on veut privilégier la sécurité, donc
Il y a
c'est des
peut-être
choses qui
des...
entrent en réflexion, mais encore une fois, il y a ce côté aussi spectacle que les organisateurs veulent préserver, parce que nous, on est en demande, c'est-à-dire qu'on préfère avoir une course où les mecs vont à 80 et où il y a un risque de chute pour l'instant, que d'avoir une course où tout le monde arrive en entier, où on a un bon finish, mais que les mecs voilà, roulent moins vite, donc... C'est aussi à nous, peut-être, spectateurs, de voir un petit peu ce qui nous convient le mieux.
Il y a peut-être des choses aussi à supprimer, comme ce genre de les positions en descente en mode fusée. J'ai pas d'autres termes d'ailleurs. Est-ce que arrêter les boosts d'énergie comme les last bottles, comme on les appelle en dernière ligne droite, des shoots de caféine pour avoir plus d'énergie et le système audio dans les casques, est-ce que tout ça, ça dégrade pas un peu l'attention? Est-ce que ça dégrade pas un peu les conditions? Est-ce qu'on devrait pas laisser plus de solitude, alors peut-être pas le bon terme, mais plus, ouais, si, plus de solitude aux coureurs dans
Moi,
ces derniers
clairement,
instants
oui.
pour éviter les...
Clairement, moi, pour moi, les oreillettes, c'est contre-productif au spectacle d'une course. C'est-à-dire que les oreillettes, bah, du coup,
Limiter peut-être, définir un temps de parole, un petit peu comme lors des élections en politique, peut-être donner un temps de temps et aux équipes, aux directeurs d'équipe, de bien gérer leur temps de parole pour éviter de saturer les coureurs.
Peut-être à la limite, ouais, réduire, peut-être pas forcément supprimer, mais en effet peut-être réduire et interdiction de faire quoi que, de dire quoi que ce soit à 10 km de l'arrivée, interdiction de parler aux coureurs, parce que le problème c'est que les coureurs maintenant ils ressentent même plus la course, il y a même plus ce feeling de course quand on prend les exemples d'autres sports, les sportifs ont le feeling du match, ont le feeling de leur performance, et là malheureusement en fait. Bah, ils écoutent en fait le directeur sportif qui est dans la voiture, qui n'est pas au sein du peloton. Et malheureusement, en fait, c'est pas du coup.
Bah c'est un peu ce qui se passe en course automobile. Il y a quelqu'un qui lui parle à l'oreillette et lui, il n'est pas dedans.
Ouais, exactement. Sauf que tu peux pas forcément ressentir l'ambiance du peloton et l'ambiance des
On devrait laisser
autres.
plus place à l'instinct des
Exactement.
coureurs.
Tout à fait, ouais.
Mais là, ce n'est pas forcément un argument de sécurité, c'est plus aussi un argument d'authenticité de la
Et parce
performance.
que peut-être
C'est quand
que
on voit
eux
les
en
championnats du
plus
monde,
voudraient aller plus loin des fois
mais
aussi.
de la pression aussi parce que ils
De
doivent
la déconcentration, tout simplement.
exactement ils doivent les déconcentrer et leur mettre une pression pas possible dans les oreillettes pour leur dire allez tu te places à l'avant allez allez allez
Oui, bah ça c'est un peu le même
Justement,
conseil que
il y
donnent
a
tous
peut-être
les
des directeurs
directeurs d'écurie
sportifs
ouais.
qui vous diront que les oreillettes, ça leur permet de faire un rappel au mec, de leur dire bah, en fait, vaut mieux que tu sois à l'avant parce que si tu es au milieu et qu'il y a une chute, la sécurité, quand tu es dans le vélo, on va dire bah, il vaut mieux être celui qui est devant. Et comme ça, tu as moins de risques d'être dans les chutes.
Oui,
Donc
mais ça, le
après,
coureur
faire
le sait,
passer
ça.
des rappels, etc. Mais peut-être que là, ça peut être plus les motos qui passent souvent à côté des coureurs pour leur filer
Oui,
les
les
temps,
motos, les
qui
supporters
pourraient
aussi, on l'a
avoir.
déjà vu autour de France, les supporters aussi. Mais bon, ça, c'est du savoir-vivre et ça, malheureusement, on peut pas le
Oui,
régler.
et c'est
mais
pas la
quand je
majorité
parle
des
des motos,
chutes.
c'est
Non.
de pouvoir leur faire passer justement le message de secteur pavé dans tant de temps,
Oui.
attention, je sais pas, posture,
Oui.
attention au risque de chute, enfin voilà, de mettre ça dans la tête du coureur, d'être vigilant. Mais je pense que les coureurs le sont, mais le problème aussi, c'est que faut en parler avec des coureurs, des cyclistes qui sont déjà tombés en course, mais c'est que les chutes appellent les chutes, c'est-à-dire que. Ils vont moins prendre de risques, mais ça veut dire qu'ils iront moins à l'avant du peloton. Et en fait, ils vont se remettre dans une position qui va peut-être les rendre vulnérables sur des chutes, ou alors ils vont se concentrer sur d'autres paramètres. Et en fait, c'est. Ouais, j'aurais pas mieux à dire que les chutes entraînent les chutes. Et en fait, c'est aussi sur ça peut-être qu'il faut travailler. Parce que finalement, peut-être que voilà, on va voir avec les deux des trois coureurs qui sont tombés ce week-end, peut-être que ces trois coureurs qui vont retomber. Encore sur les prochaines courses, on leur souhaite pas, mais voilà,
Oh,
ça
il y
touche
en a
aussi
deux, il y a
le
déjà
côté préparation mentale.
les fractures de la clavicule, c'est 2 mois. Donc déjà, il y en a pour certains. Quand on enchaîne avec ça un pneumothorax et compagnie, bon, le Tour de France, ça semble, pour
La
Vingegaard, il semble assez
préparation va être
compliqué.
tronquée.
Après, est-ce que tout simplement, eh bien juste se dire que ben, le cyclisme, c'est dangereux. Et puis
Oui,
voilà,
aussi.
c'est mortel. C'est
Bien
comme
sûr.
le tout, se dire que ben, ça fait partie du sport. Et quand on décide de regarder ce genre de sport, on prend aussi le risque de voir des images comme ça. Et que
Oui.
ça fait partie du sport, et puis tant pis.
Aussi régulièrement, vous me direz ça, et qu'il y aurait un accident dans l'année, une chute dans l'année, je vous dirais, bon, ok, why not.
Mais là, non.
Mais là, non. Vous faisiez la comparaison avec la Formule 1. Heureusement qu'on a fait des changements
et qu'il y a
beaucoup parce qu'à 300 km/h, si on avait les voitures avec la sécurité d'avant, il y aurait des morts tous les week-ends. Heureusement, les morts se font beaucoup plus rares. Mais non, on peut pas dire non, mais c'est ok. Non,
c'était non fermé définitif pour terminer, pour clôturer ce débat. Merci, tout de suite, on regarde, on a reçu quelques notifications. Première notification, on enchaîne. Plusieurs bonnes nouvelles pour le Stade Toulousain, on l'a entendu, la victoire en Champions Cup et l'officialisation, Corinne Saint-Félix nous l'a dit, d'un soutien de la mairie Toulouse à hauteur de 20 millions d'euros au projet d'agrandissement du stade Ernest Vallon. C'est plutôt bien ça, va passer de 19 000 à 23 000.
Ouais, exactement. Ouais.
C'est plutôt bien.
C'est plutôt très très bien puisque la capacité actuelle est quand même... Très petite pour une ville comme Toulouse, ville de rugby, c'est quand même très petit.
À voir comment ça va s'organiser pour jouer les matchs à domicile, mais bon, les travaux, ça sera un petit peu plus tard. On continue avec une autre notification. L'US Montauban en Pro D2 qui continue sa mauvaise série et qui enchaîne une 7e défaite de suite. Et le reste du calendrier s'annonce compliqué avec la réception de Nevers 6e, Vannes 2nd, Mont-de-Marsan 5e et des déplacements à Colomiers 7e et Aurillac 11e. Les Verts et Noirs sont 15e de Pro D2 avant-dernier à 3 points de Rouen qui est bon dernier. Est-ce que ça sent la relégation pour les Sapiakem?
Ça sent mauvais en tout cas.
Alors que voilà, ils peuvent être relégués directement sans avoir à jouer le barrage, donc ça semble compliqué. Je suis allé voir le match contre Dax d'ailleurs. C'était très très compliqué avec beaucoup de défauts et à mon avis ça sent un petit peu le sapin. Dernière notification. Le premier match à domicile, on continue les bonnes nouvelles. Le premier match à domicile du TO13 et première défaite à la maison. Les Olympiens ont perdu 14-20 et signent déjà une deuxième défaite en 3 matchs. Scénario inquiétant, peut-être déjà pour la montée. Corentin, je sais que vous avez suivi rapidement le TO13 il y a quelques temps.
Ouais, malheureusement, je pense que cette saison va être plus compliquée que la précédente. Alors déjà, à mon avis, c'est qu'ils ont raté le coche. La fenêtre de tir, c'était vraiment la saison dernière. Il aurait fallu... ne pas louper ses phases finales. Et là, je dirais, ouais, malheureusement, une saison qui part comme ça, ça va être très dur à rattraper, surtout si derrière, les leaders prennent beaucoup d'avance. Ensuite, on met beaucoup d'énergie, et puis la fin de saison peut être vite compliquée. Donc, on espère que ça ira pour eux, mais je pense que cette saison, peut-être c'est plus une saison de transition, reconstruction.
Oui, parce qu'il y a eu un nouveau président, et on vous invite à aller écouter le podcast de l'émission où on a reçu Sylvain Houlès, le coach. C'était à la fin de la saison dernière, après leur défaite en finale d'accession en Super League. Voilà, c'est tout pour les notifs, parce que le temps passe, et tout de suite, il est l'heure de pronostiquer le match de la semaine. Alors la semaine dernière, pas de pronostic à donner. Du coup, on se rattrape cette semaine. On se plonge à ce week-end, dimanche 16h, quart de finale déjà en Champions Cup entre le Stade Toulousain et Exeter. C'est à Ernest Vallon. Donc, top départ, Coraline, vous avez 30 secondes.
Eh bien, écoutez, le Stade Toulousain est en très bonne forme, tant au niveau top 14 qu'au niveau de Champions Cup. Donc, je mise sur une victoire de Stade Toulousain. Victoire, je vais vous donner un score, 30-10. J'espère qu'on aura une charnière un peu plus en forme, puisqu'on a vu un Ntamack un petit peu fatigué, ce qui est normal après un retour de 8 mois sans jouer. Donc voilà, 30-10.
Bien joué, 30-10. C'est noté. Attention, on note tous les scores. Corentin, attention, préparez-vous. Vous aussi, quel est votre pronostic? 30 secondes.
J'allais me diriger vers un pronostic un peu similaire à celui de Coraline, en espérant surtout que les Toulousains arriveront à mieux développer leur jeu, à faire un petit peu moins de déchets, et puis surtout que la météo ne viendra pas perturber la mise en place du jeu au pied. Le retour de Ramos devrait faire du bien. Si on a un Tamac à l'ouverture et Ramos à l'arrière, ça devrait quand même permettre de mettre pas mal de choses en place. Je dirais une victoire 25-13, 25-15 pour les Toulousains qui passeront... ce cap des quarts de finale et retourneront en demi.
Eh bien, merci beaucoup, Corentin. Il est déjà l'heure de se quitter après cette heure passée ensemble. Au menu de la semaine prochaine, eh bien, écoutez, une nouvelle émission, une nouvelle heure, un nouvel invité. Alors, changez rien, touchez à rien. À la semaine prochaine, même heure, même radio.